Bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup aux organisatrices de ce beau colloque. J'avais trouvé en regardant le programme qu'il était particulièrement pertinent, et je dois dire particulièrement pertinent pour cet après-midi. Et il me semble, les thèmes qui sont abordés ici, me semblent, et je le dis bien sûr avec la plus grande tristesse, comme je pense vous le pensez tous, comme j'imagine vous le pensez tous, les thèmes qui sont abordés ici me semblent chaque jour plus importants pour nous tous. Alors je suis très heureuse donc pour cette session régulation du religieux, question dont je m'occupe moi particulièrement mais d'un point de vue historique. Donc régulation du religieux et opinion publique, la traduction médiatique en question, avec un point d'interrogation. Je suis très heureuse de donner la parole au premier conférencier, au keynote speaker, qui est Monsieur Tim Jensen, qui est professeur et directeur d'études des religions à l'université de Syddansk, au Danemark, et qu'il faut, je crois, beaucoup remercier d'avoir accepté de changer la position de sa présentation. Thank you very much.
Merci. Introduction, and thank you to NLDV and your equipe of young scholars for inviting me. As you can see, my title is fairly long. As you can also see, that this is going to be a case study where I am the case. It's always a little risky because you may think too much of me instead of thinking of the case. So please concentrate on the case and forget about me. I'm just an example. Now, we are switching from studying the representation of religions in the media to the representation of the knowledge about religion, especially, of course, always today, Islam, by scholars of religion in the media. So it's another kind of way of looking at what we are studying. Well, I think I can say that I have been functioning as an expert to the media for 25 years. I do have some experience. I also had experience when it came to the Muhammad cartoon crisis. I was kind of an experienced expert to the media. At the same time, what happened to me was not something very nice. Not only not nice to me, but to the sort of science of religion, to the study of religion, in terms of reputation, in terms of getting through to the public via the mass media. And this is what I'm going to say something about. Now, it did have something to do with the faces of Muhammad. It did begin on September 30, but it went on for more than 1.5 to 2 years. And I think that it has influenced the whole atmosphere, discussions about experts to the media in Denmark. Now, what happened at the very end was that I, together with another colleague, we became actually caricatures. We became characters in cartoons in Jyllandsposten, the daily that published the cartoons. And as you can see from this image up there, we were sort of left on the sort of exemplary island, and everybody else sailed away. The debate about religion, the debate about Islam, and we were standing there on the isolated island yelling, and nobody listened. That was not the intention. I want people to listen to what the experts on religion have to say about religion, because I think that is important. Now, I'm going to focus also on some methodological issues of sort of more general importance. And I will begin with this quote from one of my good friends and colleagues, Canadian scholar Donald Wiebe. And you can all see what he said in 2005, I think it was, about how to be a good scholar of religion. And I will just read it. Though religion may have relevance for social, political, economic, cultural, and other issues in society, I, Don Wiebe, will argue that this does not oblige the academic student of religion to become engaged with those matters. Indeed, to do so, not as a citizen, but as a member of the academic guild, which has responsibility to the field or discipline of religious studies and the modern research university at large, is to fuse and therefore confuse advocacy and scholarship. This is something we're going to get back to. Is it possible to act as an expert and not end up fusing and confusing advocacy and scholarship. This is one of the issues at stake. The task, he continued, of the student of religion, qua scientist, is to seek to understand and to explain religion and religions, not to create the good society. With reference to Weber's teachings about the separation of value-free scholarship and value-loaded propaganda, Weber continued to say that the fundamental risk is that we will put the academic credibility of the discipline into question if we enter into this public sphere as public intellectuals. Now, the very same year that Weber issued this warning, he also, in the same article, attacked another very famous scholar of religion from the United States, Ross McCutcheon. And the same Ross McCutcheon was attacked by Weber for fusing these two roles, for being an advocate of some kind of anti-religious agenda, which is just as bad as being an advocate for a theological pro-religious agenda. You don't do that, right? Now, McCutcheon, the very same year, also attacked another very famous scholar of religion, namely Bruce Lincoln. And McCutcheon criticized Lincoln for, in regard to his study of religions, based critical public analysis of the rhetorics of former U.S. President Bush, for abusing, that is Lincoln, abusing his academic title and status to legitimize what, at the end of the day, was nothing but his personal political opinion and agenda. This was what Ross McCutcheon said about Bruce Lincoln. That accusation is actually not dissimilar to the one directed at me by the Danish daily Jyllandsposten in regard to my role in the debate following the publication of the Muhammad cartoons. More about that in a minute. Now, I have the problem with Don Weber, because in this article, he actually, as I see it, says something more that is very hard to reconcile with what he has just been quoted for saying. And let me see if I can find it here. Yes, he ends actually in his article saying that the academic student of religion, qua human being, is more than merely a scholar-scientist. He or she is also a citizen with social, political, economic, and other personal concerns that go beyond science and the agenda of the modern research university. And there is no reason why he or she should not, as an ordinary citizen, engage in the debates related to such concerns in the public square. Moreover, the scholarly scientific expertise of the engaged academic may even have some instrumental relevance to the achievement of particular social goals. So far, Weber. Now, I think, just like Donald Weber, that it is in the public good if the scholar of religion makes his expertise and academic knowledge available to the public, using it to qualify and inform the public and political debate. I also agree that the broader role of a public intellectual, however, as well, of course, as direct efforts to promote religious or anti-religious or narrowly party political aims, may turn out to be counterproductive as regards the reputation and prestige of the science of religion, and equally counterproductive in regard to a society in dire need, I think, of scientifically based knowledge about religion. But, and here I get to the core of my paper, so to speak, I do not share the optimism of Donald Weber when he seems to think, at least, that we, the scholars on the religion, are on the safe side as long as the scholar avoids playing the role of a public intellectual and avoids using his scholarship to promote religious or specific political agendas. On the contrary, I claim, based on my 25 years of experience, as well as on basic methodological arguments, that the renommé and value of the science of religion may be put at risk also when the scholar tries his very best to be a classical expert communicating sound knowledge in as neutral a way as at all possible. As at all possible, of course. The boundaries between the various roles a scholar can play or be put to or found to play are porous. And the scholar cannot himself always decide what kind of role he's going to play in the media. Quite often, he or she will be seen as politicizing, promoting some kind of agenda, for instance, an apologetical pro-Islam agenda. An apologetical pro-Islam agenda, of course, nowadays. And this holds good, of course, even more, I think, if we have to do with a scholar just like me, or for instance, Bruce Lincoln, who actually is of the personal and political opinion that the public debate and good not infrequently is suffering from a lack of basic knowledge of facts, a lack of historical, comparative, and analytical critical distance and approach to religion, also to Islam, and that the scholar in question, as an engaged citizen, must, of course, engage himself with scholarly knowledge in the public debate. It also, of course, holds good if the scholar is of the general opinion, as I am, that scientifically founded knowledge and critical analytical competences, not least in regard to what is called religion, is a sine qua non for an enlightened, pluralistic, democracy and open-ended society, so to speak. This stance, no doubt, makes the scholar engaging with his academic knowledge in public debates into a citizen struggling to promote a political agenda, namely the agenda he or she finds in line with his or her vision of the good society as an enlightened society. It is therefore, I claim, not easy, if at all possible, be it in theory or practice, to uphold a wall of separation between the scientific academic and the political ideological when it comes to communicating religion-related research-based knowledge and opinions to the public at large. Dr. Jensen and Mr. Jensen, so to speak, cannot be easily separated. I mean, who is sitting here today? I don't know. Dr. Jensen or Mr. Jensen. I think both end. I don't know if I'm ever Mr. Jensen or if I'm always Dr. Jensen. Well, before I move on to rendering some of the documents here related to this, I want to say that there is nothing new in what I'm saying in 2016. I said the same in 1998, what you can read here. It's basics. The present repoliticization of religion leads to a repoliticization of the study of religion, or at least to a reconsideration of the political implications of our work. Then I can say also that in a way, things have changed just a little bit, because since 1998, the focus on Islam and the focus on religion in the media has, as Mia Löwenheim has also demonstrated today, increased. So there are more religion in the media, and there is a lot more Islam and Islamophobia. Still, there was Islamophobia in 1998 too. 9/11 didn't change a lot of things. 9/11 was but the sort of a drop that may have sort of had the cup flow over, but it was not really changing everything, at least not in my kingdom of Denmark. Islamophobia had been there for years. Clash of civilizations had been sort of a discourse long before we had the publication about Clash of Civilizations by the famous guy. So I think that of course we have to know that some things have changed because of the increase in all of this. But still, now let us move to this. The Face of Muhammad, and it was published together with the other faces of Muhammad on September 30, 2005 by the Danish daily Jyllands-Posten. And it included, of course, also an article by the famous guy Flemming Rose. And you can see what he wrote in the article accompanying the 12 faces up here. He talks about the meeting between Islam, not Muslims or some Islam as such, so to speak, and the equally reified secular society of the West. Once again, how come it is so secular if it is rooted in Christianity? I mean, this is the kind of question you have to ask as a scholar. You have to make things a little bit more complicated. How can he speak about Islam as such? It doesn't exist. I'm sorry to say so. Islam doesn't exist. There are only Muslims and people who think that Islam is existent. What about the secular society of the West? I don't think that it's so secular. I think some societies try to become secular, but they are not that secular. And then how come it's so rooted in Christianity? So this is exactly just an example of what I think scholars have to constantly try to say. And then, of course, we have the final one paragraph in his article here, where he says that Muslims, of course, have to be able to put up with scorn, mockery, and ridicule. Here we have the editorial, The Threat from the Darkness. Not many people know about that, but that was also in the journal that day. Now, what happened afterwards, you all know. And the happenings at some time was violent. We had killings. We had the burning of embassies. And we had, of course, all the media working 24 hours a day. I was part of it. All the journalists in Denmark, they were high. They felt so important. They thought that they were on the top of the world. And when I was there, I also felt high, because I was writing from one studio in one media to another. And they all wanted to listen to what I said at the same time as they wanted to show on the television demonstrations, riots in the streets. And I remember once I said to one of them, why not cut this off for 12 hours? And then they see what happens. What is the role of the media in this? Are you driving this or are you not? Are you crazy, they said. Freedom of expression, freedom of speech. We have to show this. And then I said, why don't you show the Muslims sitting at home watching television instead of only showing the Muslims on the streets? No, no, it's the Muslims on the streets. I, as a scholar, also contributed to this because I said yes to appear in all these TV shows and in all these radio broadcasts. I was part of the whole thing. Now, I'm not going to say a lot about all of these contexts, but we have to realize that what happened in the wake of the publishing of the cartoons and also sort of motivating it was a lot of things. There is no single answer to what was going on in the streets, in the media, and amongst those discussing all of this. It was a lot of stuff. And all of this is still with us. All of this is still influencing all the debates. It's influencing me when I enter the TV studio last Friday to discuss another new incident in Denmark. It influences all of us. We are always thinking in terms of a lot of this. Now, in Denmark, very briefly, the context for the cartoons, the publishing of the cartoons, I have to make sure that you all know, and this is my interpretation, of course, as a scholar of religion, you have to know that it was very Islamophobic, the dominant discourse and political discourse in Denmark before the publishing of the cartoons. This is the Prime Minister of 2004. He could have said the same thing today. Actually, the Prime Minister today, 2016, a new Prime Minister, has said almost the same verbatim. We have the Minister of Cultural Affairs talking about the medieval Muslim cultures in the midst of our country, parallel societies, minorities practicing their medieval norms and undemocratic ways of thinking. We just had another case. It's exactly the same all the politicians are saying about Muslims in Denmark, at least the imams, in 2016. This is an image, an illustration to an article by the now Minister of Ecclesiastical Affairs. In the beginning of the 2000s, he was Minister of Immigration, he was Educational Minister, etc. And you can see this does not look good. This is a Muslim that enters into Denmark and into Danish politics. And under his arm, he has what? Either his true self or his alter ego. But you can recognize that this is the same illustrator as the one who made the Muhammad with a bomb in his turban. And you see the face under his arm. Here is the Danish People's Party. From 2005, from June, it's also right before the cartoons. The Muslim way of life is incompatible with, etc. Now, that was just the context, extremely Islamophobic. And you can see that the Muslims in Denmark, at least the ambassadors who approached the Prime Minister, they also thought that an ongoing smearing campaign
was going on in Denmark right before the publication and around it. Okay, so that's it. That was just the context. Now we will move to Jensen and Jyllands-Posten. Episode 1. Well, the very day the cartoons were published, I didn't know that, I was called by a journalist from Jyllands-Posten. I was in my office, I remember it very clearly, and she was asking me whether I thought that it was a good idea that Jyllands-Posten had sort of produced, namely to have illustrators draw Muhammad as they saw him. And I said, well, I don't think that, I don't know. Well, we have this not unanimous sort of prohibition against making an image of Muhammad, but still, it's not unanimous. It's, well, there are, we have some pictures, we have some images. And then again, of course, you have your right, freedom of expression. But then I added, I personally wouldn't do it. Why not? Because I think there has been enough of Islam bashing. I think we have a Muslim minority already on the floor. I see no reason why you have to tread on it again. So I wouldn't do it. And then I said, if you do it, of course I think that some Muslims will be offended. That was it. I never, ever looked in the paper for the day after to see what she had quoted me for. I didn't control anything because I was busy doing something else. It didn't really interest me. So it took a long time before I came back to the cartoons. When was that? Well, that was when everything was exploding. Everything was exploding over the midst, end of January the next year, 2006. And at that time, we come to episode 2. I'll see if I have something that can go into this. But here you see up there the front page of a newspaper in Denmark in direct opposition to Jyllands-Posten, always critical towards Jyllands-Posten. And what is happening? Tim Jensen is there on the front page, and you have a headline saying, Jyllands-Posten was warned. Jyllands-Posten was warned. And it says, it is said so by a leading scholar of religion. A prominent leading scholar of religion said so. In the article, things happened. Now, in the article, you can see that we have some problems. But I only discovered that quite later. It says, for instance, the Daily knew about the risk that the cartoons would lead to violent protests. Actually, the text that I had okayed with a journalist when I was interviewed on Saturday morning read, it now turns out that the Daily ought to have realized the risk that Muslims might be offended and that the cartoons thus might lead to protestations. That was the text that I okayed when I sent it returned to the journalist. But during the night, so to speak, the editors had changed the text so that it read that there would be violent protestations, right? Can you see that? I didn't say anything about violence. I'm not a Cassandra. I'm a scholar. I'm not an oracle. So there was a manipulation by this newspaper with my sayings. And also they told me that this would be a small article on page 6 or so, and not a front page article. I didn't decide the headline, Jyllands-Posten was warned. I never used that word. I never said that Jyllands-Posten consulted me, so to speak, the editors. I just said that I had a memory of this journalist calling me, asking me this. Okay. What happened was, of course, that Jyllands-Posten was furious. The editors in chief, they called me, they wrote and said that this was a media stunt that I myself had invented in order to come on the front page, appear on the front page of the journal. I had called Politiken. And ever after Jyllands-Posten claimed that this was one of the real dangerous threats to their reputation all around the world, this front page. So they did not like me. They hated me. Now, episode, whatever it is, they said that I had never sort of been consulted. Now, one of the journals called Journalisten, for journalists, wanted to look into the matter. And for 2 weeks, they could not find anybody at Jyllands-Posten admitting that there had been anybody calling me. So at some point, I thought, Tim, you must be crazy. You have been lying. You never had a call from these journalists. You have dreamt all this up. I was really going crazy. Finally, at the end of, I think it was March or end of February, they said, you're right. We have found some editor at Jyllands-Posten admitting that they have retrieved a journalist who called you. But that was just something about something else. And at the end of the article, there was something about the Muhammad cartoons. Okay, I said, I'm not quite happy with that, but still, it's okay. It's better than nothing. And I was sort of relieved. My memory served me well. What then happened? Beginning of next week after, another journalist from Jyllands-Posten, another editor, called me and said, now we have retrieved the journalist. And I said, well, I thought 2 weeks ago you said you had retrieved the journalist. Now you kind of, oh, I didn't know anything about what this editor said 2 weeks ago. But now I have found the journalist who talked to you. And I also have the recording, the tape recording. And it goes to prove that you did not talk to us before the publication of the cartoons, but when they had been published exactly on the very same day. Oh, I said, no. Because I knew what was coming up, right? A front page on Jyllands-Posten where it said, leading scholar Tim Jensen admits that he was mistaken. He was not consulted by Jyllands-Posten before the publication. He did not warn us. Actually, that was it. He admits that he was wrong, he was mistaken. On the front page, on page 6, they say, but he had good reasons to think so because the journalist never told him that they had been published. She never asked him to go and buy the daily. She never said they have been published. She only talked about the general idea of publishing, not that they were published. Nobody, of course, ever learned this story. The editor of Politiken said, well, because they also confronted them. And they said, we just published what Tim Jensen said. We have no... And they didn't realize, of course, that they had actually been manipulating the text. So that's it. Okay. Then we move on. September 3, 2006. A journalist at Jyllands-Posten presents a top 20 list of academic experts most frequently quoted in the Danish media. And the article is called Experts-Oracles. And it claims that the influence of experts on the public opinion is considerable and raises the question to what a degree, quote, the experts fall prey to the temptation of propagating political messages under cover of an academic title. There you have it again. Political messages under cover of an academic title. And then, of course, Tim Jensen figures there. I come in number 10 as experts together with another scholar of religion, and I'm set to swing the baton in a more general debate on religion. While number one on the list and a few others are just to be predominantly objective analysts and commentators, Islam scholar Jørgen Beck Simonsen, one of my good colleagues and friends, is said to be predominantly a debater. Jensen, that is me, I'm judged to be 50-50. 50-50 scholar, objective, and 50-50, so to speak, debater, politician. Anyway, that's it. Episode 5, October 14, 2006, Politiken, the adversary to Jyllands-Posten, publishes an article called From Scorn to Hysteria, an article that, via interviews with scholars, Jensen being one, focused on differences between Jyllands-Posten's cartoons and some later incidents implying young politicians ridiculing Muhammad by way of caricatures. Scholar Jensen, being called by the journalist, originally said no, because I don't want to give you my personal opinion. And she wanted my personal opinion. I said, you can get my scholarly opinion. Because ask me differently. Ask me, what do you know about Muslims' reactions? Do you know how Muslims react to this? And as a scholar of religion and of Islam, I could say something about how Muslims reacted. And then I said, well, I think that insightful Muslims, Muslims who can sort of tell right from wrong, they will think that this is very different from what happened with Jyllands-Posten. Now, if you don't read this, if you don't see that I am very careful to say that I'm talking about what Muslims say, you will think that I'm talking about what I myself think. Now, there is something about Time magazine, but let's move to this one. After this article in Politiken, editor-in-chief of Jyllandsposten, Carsten Juste, sent me a letter, and I returned to my office after a vacation, and I found it on my table. And there you can read it. It's very interesting. It's one of the most powerful persons in Denmark at the time, over against a petty scholar. Somebody who can, from time to time, have a few minutes with the media, but not in power as the chief editor of Jyllandsposten, the second largest or biggest daily in Denmark. And you can see what he says is that under cover of my academic title, with the use of dirty tricks and shady methods, I try to cast aspersions on Jyllandsposten and promote certain political ideas. I find it extraordinarily objectionable that you use your office with no reservations whatsoever to pass judgments on my newspaper and a series of fellow workers. That letter was also sent to the vice chancellor of the university. That is to my boss. So I thought that it was kind of intimidating. I thought that somebody wanted me to shut up, namely those people who had promoted themselves as the defendants of freedom of expression. But it was not freedom of expression for me when I criticized them or when I said something that was contrary to what they wanted me to say. What they have at Jyllandsposten insisted all the time was that they never wanted to offend Muslims. They never wanted to provoke Muslims. They wanted to provoke a public debate. And everybody who tried to say that if you want to provoke a taboo, as Fleming Rose says here, then you will, of course, provoke and offend those religious people who hold this taboo. If not, it is not a taboo. It doesn't make any sense. If you want to provoke a taboo, you will hurt somebody, you will offend somebody. That's the whole idea. But they never really accepted it. Now, after this, Jyllandsposten filed a formal complaint to the ethics committee of my university. And you can see that they once again say that I deliberately abused my academic background and credibility as an expert to, in public, propagate personal opinions. This is the criticism. And this is what they want the ethics committee to sort of pass judgment on. So this was what was happening. So I had this sort of struggle or fight with Juste. It is me there, and it is Juste there, and you can see it draw a lot of attention. It is chief editor over against Tim Jensen, scholar. There is an editor, an interview with Juste at this time, and you can see that what he says is that I, together with other scholars on Islam, lie about the motives of JP. We are abusing our titles to promote our political aims, and that we are dealing with downright political points of views that we could as well have drawn in an automat. That's the word we say in Denmark. We don't need to do any research. We can just go out here in the coffee machine and put in a money and we get the opinion, right? No problem. Then he says something more, but we can move on. At the same time, a very influential politician called Nasser Carter, who coined the term halal hippies and used it to all sort of experts and public opinion makers and intellectuals who sort of tried to complicate the picture of Islam a little bit. We were dismissed because we were halal hippies. We were just embracing all this exotic Islam stuff, right? Now, he himself could, of course, position himself in the midst with the People's Party on the outer right wing. Now, he also accused me and other scholars of not doing research, but simply doing politics. And you can see that I opposed in another way. I said, I do not draw my opinion in an automat. Now, Carter, of course, got the Freedom of Expression Award from Jyllandsposten. You can see him here. Jyllandsposten hands it out to him. And you can see a little bit later, I and other scholars, we are explicitly told that we should not apply for money when there was a big large sum of money set aside for a new research center on the link between Islam and terrorism. Because, as they said, we never did the right kind of research on Islam, meaning the kind of research on Islam that politicians wanted us to do. The ethics committee said that this had nothing to do. They acquitted me. But what happened after I had been acquitted and everybody else sort of didn't care was that you had this editorial on the front page of Jyllands-Posten saying now I had the certificate of my university to be in the service of lie instead of searching for the truth. So I was dismissed as a liar. So here comes the liar from the headline, right? Expert, scholar, etc. Now you are, and then I was an oracle, now I'm a liar. And then we moved to the cartoons, because then I and my colleague became characters for 2 weeks in the daily cartoon, where he is sort of the hornblower, he's sort of missionary man, and I'm the one always saying, trust him, he's good enough. But who can trust what I say since I'm a liar? And this is where we come back, left on the isolated island. Nobody listens to what we have to say as scholars, experts to the media. We tried our best. This is why I think Dunweeb is not right. It is difficult to do this. There is a lot of problems with this. And I think that you can see up here that you can sort of, you yourself can produce all these methodological issues and we can discuss it from now on. They are very interesting and they are there. Now, science with a capital S is supposed to hold the truth and the one and only truth. Mr. Jensen and Dr. Jensen, there is a wall of separation. Scholar expert Jensen, engaged citizen public opinion maker, wall of separation. Factual knowledge and qualified opinion, wall of separation, etc., etc. The most important thing, of course, is the general thing. The language of the media and of the academia simply is not the same kind of language. We normally operate with footnotes. There aren't many footnotes on a front page. Right? So I will simply say that scholars of religion trying to carve out more room in the public arena for an academic, non-religious approach to religion always risk digging their own graves as respected scholars. And what's worse, they also risk digging the grave for a valuable and respectable academic study of religion. The scholar who popularizes scientific knowledge, not least via the newspapers, may become political and controversial to such a degree that he becomes a problem for the scientific study of religion, the community of scholars of religion, and the university with which he or she is affiliated. Scholars who deal with the mass media in ways mentioned always run the risk of putting not only their own reputation at risk, but also the reputation of their scholarship and scholarship as such. So all the roles that I have mentioned are possible, and you can end up playing all the roles, even if you are a skilled and experienced scholar, because the game of the media is different from the game of the academia. It's very difficult, and we have to train future generations of scholars to deal with the media in regard to religion. Thank you.
Thank you very much, Professor, for sharing with us this experience. And I will say, first of all, listening to you, we feel sorry. But though I think that you pointed two different subjects, I think. The question of the medias and the way the media speak and work, and that can be very different from a context to another. The idea of freedom of speech is not the same in different contexts. And I think the other topic that you refer to is the ethics of our work. And how you can see here, we have a very young audience. So I think that we should talk about that now. Thank you very much. But I was very much thinking of the way this could be imported in France. Because I don't know if you know about that, but very recently we had very tough debates about that. And what an expert on religion is and how the expert of religion can be a citizen or not. And, well, I will say, till now, the debate is very tough, but it doesn't turn in the same way. No. Not at all. Okay, so who wants to ask the first question? On peut peut-être parler en français. Can you take the questions in French?
I will try if you help me.
Yes, I will. I will try. I will try to help you.
Bonjour, Dominique Benahim, je suis masterante à l'EPHE et ancienne journaliste. J'ai été étonnée par les proportions qu'ont pris l'affaire, mais je me demandais, les journalistes avec lesquels vous aviez traité, est-ce que vous les connaissiez déjà?
Oh.
Did you work with them before, the journalists you spoke with?
Well, interesting, good question. I knew a lot of journalists at that time, but the one who called me on September 30 was unknown to me.
Uh-huh.
The one who called me before the Sunday front page story was also young and new to me. And I don't really know. I can tell you that I have my suspicions, because on this Saturday when she called me, I said, why do you call me? And she said, we had an anonymous email. And I said, can an email be anonymous? And she said, yes. And what did this anonymous email tell you? It told me that you had been in contact with Jyllandsposten and that you had warned them. Now, ever since, I have been trying to figure out who was that person sending that email to Politiken.
Mm-hmm.
Was it actually, and I want to be very frank, was it actually the journalist who had interviewed me on the 30th of September? Because she later on left Jyllandsposten to go to another place.
Mm-hmm.
And I also thought that it was strange that they had these tape recordings, but I could never retrieve them. I asked if I could get the tape recordings. I never got them. So there was a lot of sort of difficulties. And no, I didn't know these journalists in person and from early on.
Mm-hmm. I was asking the question because, as I said, I used to be a journalist and I was working on touchy subject. And very often, when we had to speak with some experts, they chose to speak only to the journalists they knew and had worked with before, and they knew that they won't change the codes at all. So
what I learned from this is that you know, one thing is that after this, journalists did not use me as much anymore.
Mm-hmm.
They have started again. But for several years, nobody called me. It was very nice. because I had a lot of time to do other stuff. But I have learned that since then, there is not one time that I will accept anything except if I have the right to read all the quotes,
yeah,
and also to discuss the contexts and the headlines. This is my... I have told them everybody now. But at that time, no, I was not doing that, because I was so often talking to journalists that if I should have done that, I would have spent all my time doing this. But after that, yes, and after that, I would probably follow your advice, only talk to journalists that I knew before.
Thank you. You talk about Islamophobia. What does Islamophobia mean? Is it a scientific concept or...?
Well, I have a note or two in one of my articles where, of course, I define that. And since you asked me, I will try my best to recollect what I wrote in that note. I think I wrote that it is the kind of discourse on Islam that is based not only or not primarily on research on Islam, but on fear and sayings, hearsayings. And also, to a certain degree, if you look at, I think, the situation today, of political motives. So that would be sort of my mini definition right now when you ask me. But I can look up what I have written when I had the time to write it correctly.
Thank you very much for the presentation, for both parts, the personal story and also the more theoretical reflection on whether Mr. Scholar and or Dr. Scholar and Mr. Citizen can be separated. And my question would target the second subject. In your presentation, you posed this question extremely well in very sharp terms. But in terms of the answer, I'm a bit lost. Maybe implicitly I could sense from what you were saying that you think it's not possible to erect a wall. But could I ask you to reflect on this more explicitly, please?
Yeah. I think that ever since this happened to me, I have tried even harder to establish that wall of separation. I have been so keen. You could see from one of the interviews when the journalist asked me a year after about my opinion, I said, I am not going to be in your paper with my opinion because then it's a citizen. So you're asking my personal opinion, you won't get that. You'll get the opinion, the qualified opinion, qualified of a scholar who knows something about Muslims. So ask me another question. So I tried my very best, but still the experience goes to show that I actually think I also tried my very best when I talked to Jyllands Posten and Politiken the first time, but it didn't work. So I think that you can try your best, but you cannot control it.
Just a little follow-up, I'm sorry. How is it possible for us as scholars to formulate a private opinion about a subject which is our scholarly topic? I mean, we are not schizophrenic. Is it really possible? Can I have a private opinion about the topic which I know? Well, you just said you try to erect a wall, so you imply it's possible.
Then tell me that I'm crazy.
No, I'm asking. I'm just asking.
Tell me, I tried my best. It's a little bit like trying to be as objective as you can as possible. But I would never go and say that I am a believer in absolute objectivity. But I'm trying my very best. That is my point here. I'm trying. And I think we have an obligation to try. But still, when we are asked by journalists, we are also asked to come up with a qualified opinion. And it's the qualified that interests me, because I do think that we have an obligation as scholars and engaged citizens to qualify and inform the debate. Now, what happened in Denmark, and you're working in Denmark, right?
Yes.
Very recently, is that we had another sort of documentary by some TV channel revealing what was happening behind the walls of 8 mosques, revealing that imams, some places, were in favor of Sharia, as if that was sort of a surprise, and also encouraging some of the people in their community to sort of think about Sharia in regard to the Danish law. So they said to a wife, you have to sleep with your husband according to Sharia, even if he beats you up. They said to another wife, you have to accept that your husband, according to Sharia, can have another wife. And there were also things like this. And there was the usual outcry. This was why I said the Prime Minister could say the same thing in 2016 as the Prime Minister said in 2004. It's the same. And then, of course, it did not take 1 week before Jyllands Posten, but also others, started to look at scholarship on Islam. Because some Islam scholars said that the other Islam scholars were not sufficiently critical. Meaning that they were not, when they were looking at doing research in mosques, doing research on these issues, they were sort of looking at the bright sides. So the scholarship on Islam once again was accused and criticized for not being critical enough. And I then accepted to enter into a debate about this. And yes, I think that what I said during that debate is still okay. It is also the part of scholars, or it's the responsibility of us, to qualify the debates in public by way of our knowledge. It is our job to, for instance, say, well, we are so critical towards Islam that you won't even believe it. Because according to the approach of a scholar of religion, there is no such thing as Islam. There are only human beings creating Islam. There is no such thing as Allah. There are only human beings producing gods. And this is a kind of criticism that journalists normally do not even really understand. But what they want us to do as scholars of Islam is to have the kind of critical approach that the politicians have who are having their own political agendas. So this is what I mean about entering into it, qualifying the debate, but of course also qualifying the debate by way
of a vision of a good society. And this is what I stressed. To me, a good society is an enlightened society. And I have to say also here in Paris that I think that what we, in terms of discourses, have been doing to Islam, so to speak, since the mid-90s, talking about Islamophobia, is very, very bad. And I do think that scholars do have some kind of responsibility to go up against these political parties that are thriving on Islamophobia, because I think it's so dangerous. I think it's so dangerous. So this is also part of my personal scholarly opinion.
Bonjour à toutes et à tous. Je remercie à nouveau les organisatrices de ce colloque qui est jusqu'ici très intéressant. Quelques mots pour me présenter, parce que la recherche que je vais vous présenter s'inscrit dans mon travail de thèse. Donc, je suis en troisième année de doctorat en droit à l'Université de Strasbourg. Je suis affiliée au DRES, donc droit, religion, entreprise et société, et je travaille sur le versant droit et religion. Je travaille dans le cadre de ma thèse sur l'élaboration de la loi et les influences que peuvent avoir les médias et ou la politique sur la construction de la norme. Et pour analyser ça, puisque c'est un sujet très vaste, j'ai choisi une loi en particulier, qui est la loi du 11 octobre 2010, qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public, pour analyser à travers cet exemple la construction de la norme. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette loi ? Parce que c'est une loi d'interdiction, et dans un état de droit libéral comme est la France, il y a beaucoup de conditions à remplir pour promulguer une loi d'interdiction générale et absolue, comme est cette loi de 2010. Quand je dis beaucoup de conditions, c'est-à-dire que pour avoir une mesure restrictive de liberté, il faut que ce soit nécessaire et proportionné. Nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une atteinte à l'ordre public, et c'est ce point qui avait posé beaucoup de débats juridiques, et c'est ce qui a suscité mon intérêt. Donc la recherche que je vais vous présenter ici, elle s'inscrit dans ce travail de thèse. Je vais m'attarder ici sur un aspect particulier de cette loi, c'est son appellation, ce qu'elle vise réellement, c'est-à-dire la dissimulation du visage, et comment la presse l'a présentée, c'est-à-dire majoritairement comme étant une loi qui a vocation à interdire le port du voile intégral. Et c'est ce parallèle-là qui est intéressant. Donc le titre de cette étude, le traitement médiatique de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, du 11 octobre 2010, une discordance entre contenu juridique et compte-rendu journalistique. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet ? Parce que cette loi, elle a suscité beaucoup d'interrogations au niveau juridique. Donc la première, c'était le recours à l'instrument législatif. Donc la question s'est posée de savoir, est-ce qu'on recourt à une loi ou à un règlement pour promulguer l'interdiction ? Le deuxième élément, c'est le fondement de cette interdiction. Alors de la même manière, dans le débat public, on a vu beaucoup de choses sur la dignité de la femme, la laïcité, la sécurité publique, etc., etc. Et ce n'est pas forcément les fondements qui ont été retenus par la suite au niveau juridique. Et enfin, son champ d'application, à savoir, est-ce qu'on interdit cette pratique uniquement dans les services publics ou dans la rue, c'est-à-dire dans l'espace public. Donc ça, c'est des éléments que je traite en détail dans ma thèse, puisque je me suis rendu compte que les informations relayées dans la presse ne correspondaient pas toujours au développement juridique qui était tenu sur cette question, notamment sur la dignité, la laïcité, etc. D'autre part, donc le deuxième point, cette loi, elle a fait l'objet d'un traitement médiatique assez important, et cet article s'intéresse spécifiquement au traitement médiatique de cette loi, donc à son intitulé et à son contenu. Donc la question que j'ai posée dans le cadre de cette étude, c'est comment les médias ont-ils contribué à informer le public sur la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ? En d'autres termes, l'analyse par la presse de cette loi et de son processus d'élaboration est-elle en concordance avec son intitulé et son contenu juridique ? Ou est-ce qu'au contraire, on relève des inexactitudes, voire des distorsions entre le contenu juridique de la loi d'une part et son compte-rendu journalistique d'autre part ? Donc cette recherche, elle vise à élucider la manière dont ces outils d'information ont rendu compte du passage du débat politique et sociétal, donc toute la polémique autour du port du voile intégral, à son traitement en droit, c'est-à-dire la loi de 2010. Donc rapidement, la méthodologie. Donc j'ai sélectionné deux grands quotidiens nationaux de tendances politiques différentes, donc Figaro et Libération. J'ai sélectionné une période de 2 ans, avant la date de promulgation de la loi, donc ça va du 10 octobre 2008 au 11 octobre 2010. Et sur ces 2 ans-là, j'ai recensé 103 articles dans le journal Le Figaro et 107 articles dans le journal Libération. Donc j'ai en fait recensé tous les articles qui portaient sur le thème de la polémique autour du voile intégral et de la volonté de l'interdire. À l'intérieur de ces 2 ans, j'ai sélectionné 5 dates très importantes qui ont ponctué le processus d'élaboration de cette loi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a le rapport de la mission Gérin, donc le rapport de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral, l'étude du Conseil d'État, étude relative aux possibilités juridiques d'interdiction du port du voile intégral, le passage du projet de loi en Conseil des ministres le 19 mai 2010, le vote du texte à l'Assemblée nationale le 14 juillet 2010 et la promulgation de la loi. J'attire votre attention sur les 3 dernières périodes, puisqu'il faut savoir qu'à partir du moment où le projet de loi est passé en Conseil des ministres, ça veut dire que le texte est écrit noir sur blanc et qui vise uniquement la dissimulation du visage et en aucun cas le port du voile intégral. Ça, c'est très important à avoir en tête. Donc, les premiers constats, quand on regarde les intitulés de la mission Gérin et les termes de la saisine du Conseil d'État, donc les 2 documents que je vous ai présentés tout à l'heure, on voit que ce sont les titres traitent du port du voile intégral. Mais en parallèle, quand on regarde le contenu de ces rapports, qui datent tous les deux de début 2010, on constate que les juristes ont préconisé très tôt une interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public et surtout de ne pas viser le port du voile intégral. Et c'est cette préconisation-là qui n'a pas vraiment été prise en compte dans la presse et que je vais développer maintenant. Donc je délimite un petit peu ma question. Les médias ont-ils rendu compte à leurs lecteurs de ce changement de perspective, donc du passage du port du voile intégral à la dissimulation du visage? Donc c'est vraiment ça ma question. Donc pour ce faire, j'ai un plan en 2 parties. Donc ma première partie, elle démontre que la presse, malgré les termes qui ont finalement été retenus pour intituler la loi, elle ne rendra pas compte, ou du moins très imparfaitement, de ce changement de perspective pourtant fondamental. Donc dans cette première partie, il s'agit d'analyser à quelle fréquence la presse a eu recours à la notion de dissimulation du visage, donc qui est la réelle appellation juridique, et qu'est-ce qu'elle en a dit sur le fond de cette appellation. Ma deuxième partie, elle vise à constater que la quasi-absence de la terminologie juridique de dissimulation du visage, elle n'est pas la seule à l'origine de la confusion. Pourquoi ? Parce que la loi, elle sera continuellement confondue avec l'objectif politique initial qui était d'interdire le port du voile intégral. Et c'est ce qui est un petit peu problématique. Donc on a 2 phases. La première, c'est l'absence de l'appellation juridique de dissimulation du visage dans la presse, avec très peu d'explications de fond. Et en parallèle, l'omniprésence de l'idée selon laquelle il s'agirait d'une loi qui vise à interdire le port du voile intégral. À ce stade, j'apporte simplement une précision. Évidemment, même si ça peut paraître subtil, évidemment, l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public, elle interdit de ce fait le port du voile intégral. Ce n'est pas du tout ça qui est en question. Le problème, c'est que présenter la loi comme étant une interdiction du seul port du voile intégral, c'est ce qui est problématique. Pourquoi ? Parce que ça dénature la réalité d'une loi d'une part, et surtout, ça ne rend pas compte des raisons pour lesquelles une interdiction du port du voile intégral aurait été impossible dans un état de droit comme la France. Donc je commence par ma première partie, donc l'absence de prise en compte de l'intitulé de l'infraction, la dissimulation du visage. Initialement, la volonté politique de légiférer visait le port du voile intégral. À ce titre, on a les 2 premiers rapports que j'ai présentés tout à l'heure, qui ont précisé la question et qui ont permis d'aboutir à une formulation plus respectueuse des droits et libertés fondamentaux, qui est la dissimulation du visage. Donc, on a le rapport de la mission Gérin, qui date de janvier 2010, donc qui était quand même publié très tôt. C'est un des premiers documents substantiels visant à éclairer cette pratique d'une part et à envisager les possibilités de son interdiction d'autre part. Donc, ce rapport, on a une étude de fond sur la pratique du port du voile intégral en tant que tel, et on a une analyse juridique qui vise à dire si oui ou non c'est possible d'interdire cette pratique. Et rapidement dans ce rapport, on va se rendre compte que la formulation de dissimulation du visage, elle est substituée à celle d'une interdiction du port du voile intégral. Pour l'étude du Conseil d'État, c'est la même chose, la saisine visait la pratique du port du voile intégral, mais là aussi le Conseil d'État va développer une analyse juridique qui considère que seule la dissimulation du visage peut être interdite. Donc, même si ça peut paraître répétitif, c'est très important parce que c'est ces documents-là qui ont fondé finalement l'appellation de la loi finale. Donc les intitulés de ces 2 documents, ils font référence au voile intégral, mais sur le fond, c'est très clair, on ne peut pas viser le voile intégral dans une interdiction. La prise en compte de cette qualification juridique de dissimulation du visage, elle est capitale. Pourquoi ? D'une part, elle vise à éviter la discrimination qu'une interdiction du voile intégral aurait constituée. Discrimination pourquoi ? Puisque si on avait interdit le voile intégral, c'est discriminatoire envers les femmes et c'est discriminatoire envers ce que majoritairement on pense être un signe religieux. D'autre part, elle vise à séculariser la question. Là, de la même manière, interdire le voile intégral, ça aurait signifié interdire un comportement religieux et ça aurait posé beaucoup de problèmes au niveau de la liberté religieuse. Et donc, à savoir que ça ne serait certainement pas passé auprès du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un texte qui aurait été censuré de toute façon. Malgré ça, donc le but, c'est vraiment de placer le débat. Donc, ce que j'ai mis ici, c'est vraiment de placer le débat à un autre niveau, donc celui de savoir si dans la rue, il est permis ou non de se couvrir le visage, quelle que soit la manière de le faire. Malgré cela, on observe que cette qualification juridique ne se retrouve pas, ou très peu en tout cas, dans la presse. Sélectionnée, donc celle que j'ai sélectionnée. On peut donc se poser la question de savoir s'il s'agit d'une absence d'analyse de fond du sujet par les journalistes ou s'il s'agit plutôt d'une attitude passive qui tendrait à reprendre la terminologie mobilisée par les politiques. Le problème à ce moment-là, c'est qu'on se rend compte que les journalistes ils s'approprient cette terminologie et ils en parlent en leur propre nom comme étant d'une loi qui interdit le port du voile intégral. Donc on a ces deux versants qui sont un petit peu problématiques. Donc les premiers résultats. Sur les 103 articles recensés dans le journal Le Figaro, on en a seulement 12, donc c'est vraiment très peu, qui emploient les termes de dissimulation du visage. Sur les 107 articles recensés dans le journal Libération, il y en a 17 qui ont recours à cette terminologie-là. Donc la référence à la notion de dissimulation du visage, elle est dérisoire dans les deux quotidiens. Donc ici, je vous ai reproduit un tableau qui illustre en pourcentage la faible représentation de l'intitulé législatif adopté. Les périodes, c'est tout simplement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc il faut bien noter qu'à partir de la troisième période, le texte est passé en Conseil des ministres. Et donc il est noté noir sur blanc et qu'il ne s'agit pas du tout du port du voile intégral à ce moment-là. Malgré ça, on voit que sur les deux dernières périodes, qui signifie donc que la loi est concrétisée, la représentativité de cette terminologie, elle reste très réduite. Je précise aussi à ce stade qu'il n'y a aucun titre d'article dans tous les articles recensés qui parle de dissimulation du visage. Donc les titres des articles n'évoquent pas du tout cette qualification. On constate au contraire une représentativité importante de l'idée selon laquelle il s'agit d'une loi contre le port du voile intégral. Donc ce tableau-là, il montre la part importante des titres. Cette fois-ci, je me situe au niveau des titres, c'est ça qui est assez flagrant. Qui montre la part des titres d'articles qui présentent la loi comme une interdiction du port du voile intégral, de la burqa, du niqab. On trouve toutes les terminologies et c'est explicitement expliqué de cette façon-là. Donc on constate en parallèle l'absence de dissimulation du visage dans les titres et beaucoup de titres qui présentent la loi comme étant une interdiction du port du voile intégral. Alors je cite un extrait de l'ouvrage de Lise Chartier. « Si le titre ne convainc pas toujours le lecteur de prendre connaissance des détails d'une nouvelle, il en informe tout de même sommairement au passage. » Donc à partir de là, il est étonnant de constater que les titres d'articles qui véhiculent l'idée selon laquelle l'État légifère contre le voile intégral sont quantitativement plus importants que le nombre d'articles dans lesquels on trouve la notion de dissimulation du visage. Pour donner quelques chiffres absolus, peut-être que ça parle un petit peu plus. Alors, entre la remise de l'étude du Conseil d'État et le vote du texte interdisant la dissimulation du visage à l'Assemblée nationale, il y a 45 articles recensés sur cette période. Et sur ces 45 articles, on a 13 titres qui font figurer la référence d'une loi contre le port du voile intégral. Donc, à la lecture du simple titre, déjà, l'opinion qu'on se fait de la loi, elle est déjà un petit peu faussée. Un exemple, le jour même de son vote à l'Assemblée nationale, le Figaro titre, je cite, « La loi anti-burqa adoptée sans opposition à l'Assemblée ». Chez Libération, pardon, c'est la même chose. Donc on a 33 articles sur cette même période. On en a 6 titres qui présentent la loi comme une interdiction du port du voile intégral. Ensuite, le vote de cette loi, elle est passée devant la juridiction constitutionnelle. Et malgré cela, on voit que dans la presse, c'est toujours la même terminologie qui est adoptée. Le 8 octobre 2010, Libération titre, je cite, « Le Conseil constitutionnel a validé la loi interdisant le port du voile intégral ». Si on peut légitimement penser que ce type de titre vise à attirer l'attention du lectorat plus qu'à l'informer, il est maintenant nécessaire, dans une deuxième partie, de s'interroger sur le contenu de ces articles. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que ces articles véhiculent cette même idée ou est-ce qu'au contraire, ils tentent d'être en conformité avec le contenu de la loi? En d'autres termes, il s'agit de savoir si le contenu des articles étudiés permet ou non de comprendre que le débat juridique porte sur la question de la dissimulation du visage dans l'espace public. Donc, Ma deuxième partie, la prépondérance des références à une loi contre le port du voile intégral. Alors évidemment, l'idée selon laquelle il s'agirait d'une loi contre le port du voile intégral n'est pas dénuée de fondement, du moins politique, puisque au départ, c'est un objectif qui était fixé par le gouvernement. Le débat, il avait été posé par Nicolas Sarkozy, qui était alors président de la République, qui a déclaré, je cite, « La burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République française ». Donc c'est un discours qui a été repris par François Fillon, qui était Premier ministre, et puis par d'autres membres du gouvernement, ce qui est normal puisque c'était un projet porté par le gouvernement à l'époque. Mais cette formulation, on l'a dit, elle a été discréditée par le Conseil d'État, et plus encore, et plus spécifiquement, par l'inscription dans le texte de loi de la notion de dissimulation du visage. Malgré ça, les discours politiques relayés par la presse et le discours des journalistes aussi présenteront le voile intégral comme seul objectif de la loi. Alors ces deux graphiques, donc ici il y a le Figaro et puis celui de Libération juste après, ils représentent le nombre de références à une loi d'interdiction du voile intégral dans les déclarations des personnalités politiques de droite, de gauche et les journalistes eux-mêmes. Donc j'ai tenu à séparer ce qui a été relayé, enfin les déclarations politiques relayées par la presse et puis les propos de la presse elle-même pour ne pas fausser les résultats en quelque sorte. Et donc on se rend compte, donc j'attire votre attention aussi sur la courbe orange qui représente les journalistes, puisque ça veut dire qu'ils s'approprient vraiment cette terminologie et que la loi elle est présentée comme ça en dehors des déclarations politiques. Voilà, chez Libération c'est à peu près la même chose. Donc la volonté de faire de ce fait divers un débat central, elle est plutôt constatée à droite, puisqu'on l'a dit, le projet était porté par le gouvernement de l'époque. Les déclarations de gauche sont donc moins fréquentes, mais les inexactitudes dans les termes employés dominent les discours publics, toutes tendances confondues et tout au long du processus d'élaboration de la loi. Le passage du texte en Conseil des ministres le 19 mai concrétise les termes de l'infraction dans le texte de loi, mais la presse maintiendra une certaine présentation assez superficielle du sujet, toujours traitée par le prisme du voile intégral. La plupart des articles relayés, ils relayent effectivement les déclarations politiques. Quant au discours de la presse elle-même sur cette problématique, on constate aussi l'emploi d'un vocabulaire inapproprié. Et c'est ça aussi qui avait attiré mon attention. Donc je vous ai reproduit ici quelques exemples. Alors, après le passage du projet de loi en Conseil des ministres, donc le 19 mai, un article du Figaro précise, je cite, « Le projet d'interdiction totale du voile intégral dans l'espace public a été approuvé. Et il paraît inévitable que le Conseil ait à se prononcer sur la loi interdisant le voile intégral dans l'espace public. » De même, pour présenter les positions des socialistes, je cite, « qui ne veulent pas monter en ligne contre le projet de loi sur la burqa qui sera débattu en séance publique. » Donc on voit une terminologie assez variée et qui ne colle pas du tout à la terminologie juridique. On aurait pu penser qu'après l'adoption du projet de loi par le Parlement, les termes utilisés auraient été en adéquation avec le cadre juridique. Pourtant, autant dans l'un quotidien que dans l'autre, la présentation de la procédure et l'appellation de la loi n'ont pas changé. Alors ici, je vous ai reproduit deux extraits qui montrent qu'on a différentes terminologies qui sont employées au cours d'un même article. Donc, je cite le premier. « La loi anti-burqa a franchi le cap de l'Assemblée nationale. 20 députés de gauche ont voté hier le projet de loi visant à interdire le port du voile intégral dans l'espace public. » Un commentaire rapide. Donc, on voit « loi anti-burqa » et puis on voit juste après le projet de loi visant à interdire le port du voile intégral. Donc déjà, on a deux terminologies qui ne veulent pas dire grand-chose. Et en plus, il aurait suffi de remplacer le port du voile intégral par la dissimulation du visage pour avoir une information qui est en adéquation totale avec la vraie appellation de la loi. Peu de temps après, on trouve encore, je cite, « Le Sénat a approuvé hier le projet de loi destiné à interdire le port du voile intégral dans l'espace public à la quasi-unanimité des votants. » C'est le même commentaire que tout à l'heure. Une fois adopté, le texte portant interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public a été jugé par le Conseil constitutionnel. Le 8 octobre 2010, un article titre « Le Conseil constitutionnel valide la loi sur le voile islamique intégral ». Là aussi, on a « voile islamique intégral », qui est encore une autre terminologie, alors que si on avait utilisé simplement « dissimulation du visage », la phrase aurait été en adéquation avec la loi. Donc chez Libération, c'est la même chose. Le Parlement a définitivement adopté le projet de loi prohibant le port du voile intégral dans l'espace public. Puis, je cite, « Burqa, le Conseil constitutionnel a validé hier la loi interdisant le port du voile intégral ». Donc, c'est exactement les mêmes commentaires que tout à l'heure. On a deux versants, l'utilisation d'une terminologie différente entre burqa et voile intégral, et puis en plus, simplement, le fait de remplacer l'un par dissimulation du visage pour être en adéquation avec le cadre juridique. Parfois même, certains articles expliquent le recours à la notion de dissimulation du visage et parlent en même temps dans le même article d'interdiction du port du voile intégral. Un article du journal Libération, quelques jours avant le vote du texte à l'Assemblée nationale, relaie une déclaration de Michèle Alliot-Marie. Elle explique, à juste titre, je cite, « Il n'est pas question de voile dans le projet de loi, mais de la dissimulation volontaire du visage par tout moyen ». Et ça n'empêche pas dans le même article de lire, je cite, « Les députés entament ce soir le débat sur l'interdiction de la burqa. La ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, défendra ce projet de loi. » Ici, je me suis permise d'insister un petit peu, quitte à ce que ce soit un petit peu répétitif, parce qu'au départ, l'idée que j'avais, c'était que c'est surtout les déclarations politiques qui faussaient le débat, puisque effectivement, au début, c'était un objectif politique. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a certains articles dans lesquels les politiques disent eux-mêmes qu'il ne s'agit pas d'une loi contre le voile et que le journaliste derrière, enfin, fausse toute l'explication qui vient d'être donnée. La mobilisation d'une terminologie éloignée du réel cadre juridique, elle est lourde de conséquences pour la compréhension du droit par le lecteur. Évidemment, on ne demande pas à la presse de maîtriser tous les aspects juridiques d'une problématique. Mais présenter la loi interdisant de dissimuler son visage dans l'espace public comme une loi contre le voile intégral, ça a deux conséquences non négligeables. D'une part, ça fausse le débat juridique, et d'autre part, et surtout, ça fausse la perception du droit par l'opinion publique. En effet, il est très différent de penser qu'un état de droit à légiférer sur une question liée à l'ordre public, donc une question assez générale, comme dissimuler son visage dans la rue, ou de penser qu'il a légiféré contre ce qui est compris par la majorité des gens comme un phénomène religieux, à savoir le voile intégral. Si le port du voile intégral fait partie du comportement prohibé par la loi, cette loi revêt un caractère général et elle ne vise pas seulement cette pratique. Or, les articles étudiés présentent majoritairement cette loi comme une interdiction du seul port du voile intégral, ce qui représente un risque puisque, je cite, « La répétition médiatique est une grande force de constitution des évidences. Dans nos sociétés médiatiques, répétition vaut démonstration. » Et répétition vaut démonstration, je trouve que ça résume assez bien mon propos. Je précise également que quand l'idée a été faite de légiférer sur cette question, il y a beaucoup de positions politiques qui étaient contre le port du voile intégral, c'est vrai, mais qui étaient aussi contre le recours à la loi. Leur argument, c'était de dire « si on fait une loi, ça va créer des amalgames ». Et malgré ça, on n'a pas tenu compte de ces déclarations-là, et c'est légitime de s'interroger sur les raisons pour lesquelles une terminologie plus neutre et séculaire de dissimulation du visage n'a pas été mobilisée. Ça aurait permis une meilleure transmission de l'information au public, mais aussi un apaisement des tensions, puisque je le rappelle, c'est une période où il y a eu énormément d'articles sur la question, beaucoup de polémiques et beaucoup de tensions de ce fait. Présenter le débat relatif à la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public à travers principalement la situation des femmes musulmanes portant le voile intégral, semble avoir eu les mêmes répercussions qu'un fait antérieur. Je me réfère ici à la polémique qu'il y avait eu en 2004, suite à la loi qui interdisait le port de signes religieux à l'école. Alors je cite un article d'Hubert Pérez qui a travaillé sur cette question. « Lorsque quelques mois plus tard, la loi interdisant le port de signes religieux à l'école publique aura été adoptée, il deviendra habituel de considérer que le débat sur la laïcité, motivé par le foulard islamique en 2003, a été largement, sinon principalement, guidé par les interprétations relatives à la condition des femmes musulmanes. » Et cet extrait m'a interpellée. Pourquoi ? Parce que quelques années après, on a fait exactement la même chose avec la loi de 2010. En plus, une différence, c'est que la loi de 2004, elle porte effectivement sur les signes religieux, alors que la loi de 2010 ne porte pas sur le signe religieux. Elle porte sur la dissimulation du visage. Quelques mots pour conclure. Au-delà de la dégradation de la dimension juridique du débat, il faut souligner que les termes utilisés ne permettent pas non plus de comprendre la réalité du comportement en question. Employer indifféremment les termes de voile intégral, burqa, niqab, alors que ces termes désignent des pratiques différentes, favorise la confusion et ne permet pas une bonne compréhension de ces pratiques. Et je précise ici que le rapport de la mission Gérin, il est accessible en ligne et il dresse un tableau de ce que sont ces pratiques, leur origine, d'où ça vient, etc. etc. Donc on n'a pas trop d'excuses finalement pour employer un mot à la place de l'autre. Donc au-delà d'avoir un peu dégradé la dimension juridique, on a aussi dégradé la compréhension du fait. On relève par ailleurs dans la presse un certain nombre d'amalgames. Même si le rapport de la mission Gérin précise que le port du voile intégral ne relève pas d'une prescription islamique, cette pratique, elle sera toujours traitée en imbrication avec d'autres sujets liés à la religion. Et ça aussi, c'est très important. Donc je vous ai... J'ai relevé quelques exemples aussi rapidement. On a un article sur l'expansion de la burqa à Vénissieux qui traite par exemple de la question religieuse à l'école, qui cite indifféremment les enfants qui jeûnent pendant le ramadan, l'alimentation halal dans les cantines, les contestations des cours de biologie dans certains quartiers, etc. Alors évidemment, le but, c'est pas de dire que ces problèmes n'existent pas, c'est des problèmes qui sont réels. C'est juste qu'ils concernent des réalités diverses et des rapports aux religieux qui sont aussi divers. Et rien ne justifie, si ce n'est le rapport plus ou moins lointain à l'islam, de traiter ces pratiques comme un tout et de les rapporter à la question du voile intégral. Dans le même style, on a un article du Figaro Opinion qui réagit au changement de position d'Éric Besson à l'époque quant à une loi contre le voile intégral. Le journaliste se demande, je cite, « Mais qu'attend-il pour rencontrer aussi ceux qui vivent dans les écoles, les hôpitaux, les quartiers, les tensions nées du communautarisme? Écoutera-t-il enfin ces maires contraints de célébrer des mariages de complaisance ?» On a un autre article, je cite, qui explique « Après les longues barbes, les niqabs sont apparus dans les banlieues des grandes agglomérations. » Bon, tous ces sujets sont très complexes. Ils relèvent pour certains de problèmes locaux, sociétaux, pour d'autres théologiques, historiques, sociologiques, et souvent de plusieurs de ces domaines à la fois. Dans le domaine de la recherche, on le sait, on pose une problématique et puis on essaye de ne pas s'éloigner sur d'autres sujets pour pas justement prêter à confusion. Or, traiter ces phénomènes comme faisant partie d'un tout, ça les rend assez incompréhensibles et ça entretient surtout une grosse confusion pour les lecteurs qui ne vont pas aller lire des études universitaires sur le sujet. De la même manière, la surmédiatisation de certains faits divers a aussi participé à la dénaturation du débat. Au-delà de créer des amalgames, cette surenchère médiatique, autour de ce qui n'était au départ qu'un phénomène religieux, marginal, parce que je rappelle, le rapport du ministère de l'Intérieur en 2009 évalue à 1900 femmes qui portaient le voile intégral sur le territoire national. Et la surenchère médiatique autour de ce phénomène assez marginal, finalement, ça peut avoir de lourdes conséquences. Je cite ici l'extrait d'un article d'Agnès de Feu qui a été publié dans Le Monde le 11 octobre 2015, donc 5 ans après la promulgation de la loi. Alors je cite « Le battage autour de la loi a permis à certaines de découvrir un moyen de revendiquer une islamité valorisante à travers les codes salafistes. C'est un renversement du stigmate. On les a nourries d'exclusion. On a projeté sur elles nos propres fantasmes, on a créé le monstre qu'on voulait éviter. » Et donc ce petit extrait-là, finalement, il nous renvoie à ce qu'on disait ce matin sur l'éventuel rôle que peuvent avoir les médias, sur les phénomènes de radicalisation. Ainsi, l'analyse du traitement journalistique de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public illustre le double niveau auquel se joue l'impact médiatique. D'abord, on relève le rôle des médias dans l'information relative aux problématiques sociétales. Donc moi, mon exemple, c'était le port du voile intégral, mais ça peut toucher d'autres domaines, et ça touche d'autres domaines. Et surtout, sur un autre niveau, on constate une certaine discordance dans la transmission de l'information entre ce qui est exposé dans les journaux d'une part et ce qui est le cadre juridique en vigueur d'autre part. Donc je vous remercie pour votre attention et je reste attentive à vos questions.
Bon, je crois qu'on va tous vous remercier beaucoup pour cet exposé. Merci. Très, très, très éclairant. Alors, moi, je voudrais d'abord faire une remarque, c'est-à-dire que vous avez abordé, en fait, ici, le problème de la vision à la fois du domaine du religieux et du domaine du droit.
Oui,
exactement. Et moi, je constate que, bon, le raisonnement juridique, il est particulier, il est spécifique, et il me semble souvent que l'opinion n'est pas juriste, et l'opinion a beaucoup de mal à prendre en compte le raisonnement juridique. Et là, je crois qu'on a un cas très, très intéressant, mais pas assez spécifique, du rôle que les médias pourraient jouer et qu'ils ne jouent pas, justement. Exactement. En ne prenant pas du tout en compte ce qu'est le raisonnement juridique. Mais en vous écoutant, j'avais quand même une question aussi, parce que, je m'attendais à ce qu'à un moment ou un autre, vous mettiez la question de la loi de 2010 en perspective avec celle de 2004, mais je suis bien contente d'avoir une juriste à qui poser la question. Il me semble qu'il y a une différence, c'est-à-dire que moi, j'ai entendu dire, mais pas précisément, qu'en fait, les moyens juridiques d'empêcher la dissimulation du visage dans l'espace public existait de toute façon et que l'adoption de la loi n'était pas nécessaire pour empêcher ça.
Oui, alors juridiquement, la dissimulation du visage, par exemple, elle est déjà interdite partiellement. C'est-à-dire s'il y a des manifestations, si voilà, il y a certains cadres précis dans lesquels on ne pouvait pas de toute façon dissimuler son visage. Et le raisonnement juridique sur la dissimulation du visage dans la rue, puisque c'est ça en fait qui a posé problème. Si on avait dit on interdit la dissimulation du visage dans les services publics, le fondement c'était quoi ? C'était la sécurité. Tout le monde aurait été d'accord. Le problème, c'est qu'on a voulu étendre cette interdiction-là dans la rue. Et pour étendre une interdiction dans la rue, donc une interdiction générale et absolue, il y a des conditions à respecter. Et ces conditions-là, à mon sens en tout cas, elles n'étaient pas remplies, et c'était le sens aussi du Conseil d'État, elles n'étaient pas remplies dans un état de droit ou en paix. Enfin, je veux dire, c'est pas si on avait été dans un état en guerre ou dangereux, etc., ou peut-être aujourd'hui, peut-être que ça aurait été justifié. Mais là, l'atteinte à l'ordre public, elle n'était pas justifiée. Et sans entrer dans le détail, ce que finalement on a fait pour pouvoir promulguer cette loi, c'est qu'on s'est fondé sur l'ordre public immatériel, qui était un argument qui n'avait jamais été utilisé. Et personnellement, je pensais que le Conseil constitutionnel aurait censuré. Ça n'a pas été censuré. La Cour européenne ne l'a pas censuré non plus. Donc voilà. Le fondement, en fait, c'est le fondement de la loi qui prêtait vraiment à confusion.
Merci beaucoup.
Ce qui n'était pas le cas en 2004.
Je crois que c'était vraiment important d'expliquer ça. Alors, il y a beaucoup de questions, semble-t-il.
C'est vous qui dites. Merci. Je vous remercie pour cette présentation. Très intéressant pour moi, parce que je travaille aussi sur ce sujet. Et puisque je suis dans une approche en communication sémiotique, vous m'avez donné d'autres pistes de réflexion pour bien saisir tout cet enjeu juridique. J'aurais en fait un questionnement qui s'approche d'une critique, après un questionnement plus pour apprendre avec vous. Donc les premiers, c'est, vous avez bien démontré, on a travaillé sur les mêmes corpus de presse. Mm-hmm. Donc je vois exactement de quoi vous parlez. En effet, c'est comme ça. Il ne traite pas dans les termes juridiques cette loi. Par contre, vous avez interprété cela comme une espèce de suivisme médiatique des acteurs politiques. Alors que je peux aussi penser que c'est une manière de ne pas cacher ou voiler ces contournements discursifs juridiques de la question. Qui en fait, oui, c'est une stratégie politique en soi d'abord, et puis les médias ont suivi, mais finalement, en fait, ils n'ont pas suivi lorsqu'ils ont gardé les termes burqa, en laissant, en nous laissant comprendre jusqu'à la fin qu'il s'agissait d'une loi contre la burqa. Oui. Et sur ces points-là, je suis plutôt d'accord avec les médias. Donc, c'est pour ça que j'aurais une petite critique là-dessus, mais ma recherche dit accompagner exactement ce que vous avez dit, en effet. C'est un point qui m'a aussi intriguée.
S'il vous plaît, comme il y a beaucoup de questions et pas beaucoup de temps, s'il vous plaît, formulez rapidement les questions.
D'accord. Et la deuxième, vous avez aussi parlé du discours ni voile ni loi. C'est que sont au milieu, ils qui ne veulent ni la burqa ni la loi. Et qu'eux, ils ne se sont pas accordés au terme de la loi dissimulation, les termes de la dissimulation. Je pense que c'est pour cette raison aussi, pour ne pas entrer dans un glissement discursif du débat. Et puis, en fait, la vraie question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport au terme d'espace public. Mm-hmm. Puisque vous avez parlé très rapidement, les problèmes de cette loi, c'est que ça concerne la rue. Alors qu'avant, sur l'ordre de l'espace public, c'était déjà régulé, etc. Donc comment penser les flous de sens du terme d'espace public dans ce débat?
Alors, je réponds juste rapidement à la remarque quand même. Effectivement, les médias n'ont pas voulu parler, peut-être, n'ont pas voulu aborder la notion de dissimulation du visage parce que c'était une volonté politique de dire voile intégrale. Moi, ce qui me pose problème, si vous voulez, c'est que, en tant que juriste, sans vouloir être... c'est qu'on ne peut pas laisser les gens penser que l'État a légiféré contre une pratique religieuse. Et c'est ça qui me gêne dans le discours des médias. Il l'a fait, mais... Juridiquement, c'était vraiment pas possible de légiférer contre le voile intégral. À la limite, on aurait pu trouver expliquer en quelques mots qu'effectivement, la volonté politique, c'est de légiférer contre le voile intégral, qu'il y a eu un changement de formulation parce que juridiquement c'était pas possible, mais au moins expliquer aux gens, aux lecteurs, que l'État n'a pas légiféré parce que c'était pas possible. Et comme ça, on peut placer le débat à un autre niveau, à savoir est-ce que c'est permis ou pas de dissimuler son visage dans l'espace public. Et donc, pour répondre à votre question sur l'espace public, il y a un article entier qui a été écrit là-dessus, suite à cette loi, parce qu'effectivement, on se demandait est-ce que c'est dans la rue. Et puis, suite à cette loi, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'exceptions qui ont été posées. Et finalement, effectivement, ça revient simplement à interdire le port du voile intégral. Mais voilà, la question s'était posée, est-ce qu'on l'interdit aussi dans les voitures, puisque c'est considéré comme privé? Est-ce qu'on l'interdit dans la rue? Ensuite, il y a eu une exception pour les mosquées. Les lieux de culte. Exactement. Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais je dis juste qu'on aurait dû vraiment placer le débat sur un autre niveau. Voilà. Pas juste faire penser que... parce que même moi, en lisant la presse, il y a un moment où je me suis dit, ah, mais c'est n'importe quoi. Voilà. Je me suis presque laissée avoir au bout de mon corpus de presse en me disant, mais qu'est-ce que la France a fait, quoi. Alors que non, juridiquement, c'était pas possible et vraiment, il faut le dire. Parce qu'il t'a sauvé le reste de droits qui nous restent.
Moi, je voulais. Oui. Moi, j'ai le micro. Je vais prendre très peu de temps. Merci beaucoup pour l'exposé. Et pour aller dans le sens, effectivement, du débat qu'on est en train d'avoir, il faut peut-être ajouter aussi, si je ne me trompe pas, je viens de vérifier, je pense que c'est correct, que dans la loi, il y a aussi une spécificité. Enfin, on spécifie également les peines. Qu'encourent les personnes qui portent donc une couverture du visage intégrale, disons, et que donc on spécifie donc les peines d'amende donc elles encourent, et les peines d'amende qu'encourent les personnes qui les obligeraient à le faire. Donc on est vraiment là sur quelque chose, ouais, de très très spécifique qui vise effectivement le voile intégral.
Exactement, ouais.
Donc ça c'est à dire, je pense, peut-être quand on présente cette loi, c'est que ce n'est pas seulement la dissimulation du visage, mais c'est expliquer dans quelle mesure on...
Ça c'est une disposition pénale, ouais. C'est-à-dire que, oui, le problème de cette loi, c'est qu'elle interdit on est dans un état de droit libéral, donc on ne peut pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, sauf s'il y a une raison de le faire. Et donc on aurait pu pénaliser le fait de contraindre une femme à se voiler le visage, et c'est ce qu'on a fait. On a mis une disposition dans le code pénal qui dit quiconque contraint une personne à se dissimuler du visage encourt telle peine. Mais la loi en elle-même, elle concerne les femmes qui se le voilent volontairement. Et il y a eu des statistiques qui ont montré que généralement, les trois quarts des femmes qui portent le voile intégral, c'est pas pour défendre la pratique, hein, mais c'est une attitude volontaire. Donc ça reviendrait à dire demain on interdit les piercings parce que ça choque un tel, etc., etc. C'est au niveau de la liberté personnelle que ça pose un petit peu problème, en fait.
Moi, j'aurais des tonnes de questions. Merci beaucoup, c'est génial. Je vais l'appliquer à autre chose, mais il y aura beaucoup moins de corpus. Je voulais juste savoir, par hasard, est-ce que La Croix a été un peu plus rigoureuse, La Croix, le journal, a-t-il été un petit peu plus rigoureux? Est-ce que vous avez tout en mémoire? Est-ce qu'il y a eu des schémas, des dessins, juste pour montrer la différence entre quand les mains sont cachées par du tissu noir ou non? Et ça veut dire qu'on peut se voiler les mains et pas le visage.
Non.
Et très peu de gens aiment le vocabulaire juridique de toute façon. Et je dirais vive les femmes.
Je vous rejoins. Pour le journal La Croix, c'est, comme en plus je suis affiliée à l'Université de Strasbourg, c'est un corpus que je vais être obligée de voir, mais pour l'instant, je n'en suis pas encore arrivée à là.
Et les dessins, les schémas?
Les schémas, ils sont tous dans le rapport de la mission Gérin. Par contre, c'est...
Dans les journaux?
Ah non.
Il y en a qu'un. Non. Et vous n'avez pas surtout les journalistes?
Non, 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 non. Parce que justement, j'ai un sujet transversal. Du coup, moi, c'est vraiment cette loi qui m'intéresse, la manière dont on l'a traitée. Et au fur et à mesure, je vais aller étayer, si je peux, ce qui a motivé les journalistes, effectivement, à adopter ces approches-là.
Juste une réflexion et une question. La réflexion, c'est... en fait, on est vraiment sur le décalage entre vérité sociologique et politique, d'une part. Et là, en l'occurrence, la presse l'a dit. C'est la vérité que vous avez même restituée en racontant l'origine du débat social sur le sujet. Et d'autre part, la vérité du droit. Mm-hmm. Je prends un exemple. Quand on fait... Ça m'arrive souvent de faire des cours sur la laïcité. La séparation des églises et de l'État, c'est la vérité juridique. La séparation de l'église et de l'État que tous les Français prononcent quand ils parlent de cette loi, c'est la vérité sociologique, mm-hmm, politique, symbolique. Vous voyez, oui. Et donc, voilà, je pense que c'est en disant peut-être des choses comme ça qu'on arrive à bien réexpliquer la chose. Mm. Deuxièmement, pour pondérer justement la réalité des sens de cette mesure, a-t-on des exemples d'application en dehors du voile intégral? C'est-à-dire, est-ce que les pénitents à Nice ont été verbalisés quand ils portaient leur grande... coiffent ou les, je sais pas, les gens qui lors du Mardi Gras défilent avec des masques sur la tête, etc. Voilà. Est-ce qu'on a des exemples?
Oui, exactement. Il y a des exceptions sur les traditions locales, etc., qui ne nous permettent pas de condamner toutes les personnes qui se dissimulent intégralement le visage. Jusque maintenant, j'essaie de trouver des condamnations qui auraient concerné d'autres femmes que le port du voile intégral. Et une petite précision, c'est qu'en plus, je ne sais pas si vous le savez, il y a un monsieur libanais qui a fait une association qui s'est engagé à payer toutes les amendes qui seraient infligées aux femmes. Et donc, du coup, c'est une loi qui n'est pas effective, à mon sens. Ce n'est pas effectif du tout, puisque de toute façon, les amendes seront payées par quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Mais à ma connaissance, en tout cas, les condamnations, pour l'instant, non, elles concernaient uniquement des femmes qui portent le voile intégral.
Merci pour votre exposé extrêmement clair. Est-ce que ce que vous relevez ne vient pas du fait que les médias se placent souvent sous l'égide du, je place ce mot entre guillemets, du décryptage, comme ils disent, de l'idée d'aller au-delà des mots et de révéler une stratégie? Est-ce que ce n'est pas pour ça que même si quelque chose est précisément indiqué, ils y voient autre chose, prétendant éclairer le public?
Effectivement, je pense que c'est possible que ce soit pour ça. Ça, à part aller demander aux journalistes directement, je ne pourrais pas vous répondre. Moi, ce qui me gêne, c'est juste que ce qu'on en ressent en lisant la presse, c'est totalement éloigné de la réalité. Et ça, il faut le dire, même si les gens n'aiment pas le droit, comme sur beaucoup d'autres sujets. Bien sûr, mais voilà. Les gens n'aiment pas beaucoup le droit, c'est vrai. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir à traiter. Voilà. C'est difficile de traiter ce genre de problématique sans endormir tout le monde. Mais le problème, c'est que justement, en lisant la presse, on ne peut pas laisser les gens penser qu'en France, on a un état de droit et l'État ne peut pas légiférer contre ça. Il faut juste augmenter le débat d'un niveau. C'est tout ce que je demande aux journalistes. S'ils ont une raison de penser que ce qui était visé, c'était le voile intégral, ils ont tout à fait raison. Je suis sûrement la première à le dire. Mais ça permet pas vraiment d'augmenter le niveau.
Enfin, là, vous êtes dans un point de vue partisan du droit.
Oui, tout à fait, tout à fait. Non mais on. Oui, bien sûr, mais on peut.
Oui.
Oui, merci pour votre démonstration extrêmement claire. Merci. Mais effectivement, ça pose, comme le disait tout à l'heure Rita Hernandello, la question du rapport du politique et du juridique, et oui. Du juridique et du médiatique. Et je pense qu'en France, là, il y a une spécificité dans le rapport du politique et du juridique par rapport à d'autres pays, parce que dans les pays de rule of law, c'est pas tout à fait le même rapport. Et peut-être, ça serait intéressant d'introduire aussi cette variable dans votre raisonnement.
Oui.
Et puis, j'entends votre démonstration, mais en même temps, j'aurais tendance à fortement la pondérer, car les circonstances de l'élaboration d'une loi sur la dissimulation du visage sont nées de questions relatives au port d'un voile intégral, et le champ d'application porte principalement sur le port du voile intégral, et qui plus est, le débat international dans les médias internationaux a été labellisé comme le débat sur la burqa ou le niqab. Donc, il y a quand même un ensemble de faisceaux de faits qui expliquent cette polarisation sur débat sur la voile intégrale ou débat sur la burqa plutôt que débat sur la dissimulation du visage.
Non, mais...
Et donc, je pense, j'adhère volontiers à votre point de vue, mais la société, c'est pas... C'est pas le monde du droit, c'est fait de représentations, d'affects et d'imposition de vocabulaire qui sont ensuite reprises dans le débat social et qui font sens pour que le débat se déroule. Alors on peut le déplorer, vous avez raison de le déplorer, mais par contre, voilà, une des choses, pour revenir à ma première remarque, ce serait qu'il serait peut-être opportun d'introduire dans l'enseignement une initiation au droit.
Ah non, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, si je peux répondre rapidement, je ne nie pas du tout que la loi a été faite contre les femmes qui portent le voile intégral. Moi, ce qui me gêne, c'est juste d'un point de vue juridique, même si les gens n'aiment pas le droit, on ne peut pas laisser penser les gens que cette loi a été faite, enfin que c'est une loi contre le voile intégral, tout simplement, juste pour élever le débat et se demander est-ce qu'on est partisan d'interdire le voile intégral ou est-ce qu'on n'est pas partisan d'interdire le voile intégral. Mais on ne peut pas dire l'État a légiféré... jusqu'au moment où la loi a été promulguée, on a dit que le Conseil constitutionnel a validé la loi... qui interdit la burqa, donc c'est très très grave. Vraiment, c'est...
À l'époque, le président de la République dénonçait l'hypocrisie.
C'est un petit peu hypocrite, oui.
On pourrait faire une analogie aussi avec la façon dont a été reçue, notamment dans les médias et dans l'opinion, la loi de 2004, qui pour beaucoup est la loi qui interdit le port du voile, alors que c'est la loi qui interdit l'ensemble des signes religieux. Oui, mais justement, là, on voit à quoi peut conduire la non-attention au discours du droit. Et moi, je vous remercie beaucoup, parce que je pense que c'est aussi du rôle des chercheurs en sciences sociales de prendre le droit comme l'un de leurs objets et de rendre au droit la place qu'il occupe, en fait, de fait, dans nos sociétés. Je pense qu'une intervention comme la vôtre est vraiment très, très bienvenue.
Merci.
Alors, nous allons arrêter nos débats, le temps de souffler un petit peu. Et